Alors, nous sommes très heureux de pouvoir discuter aujourd'hui avec Olivier Ledroit et Thomas D au sujet donc de Wicca et pour ActuSF et donc l'occasion des Utopiales. Donc pour commencer, alors est-ce que vous pouvez revenir un peu sur la genèse de cette bande dessinée et comment vous en êtes venus à collaborer tous les deux?
En fait, je connais Thomas depuis pas mal d'années. On s'est rencontrés une vingtaine d'années à peu près. On a travaillé ensemble pour faire des lui était directeur de collection et il me commandait des illustrations pour illustrer des romans de poche. Quoi. Je connaissais ses romans, j'aimais bien, je l'apprécie aussi. Donc, à un moment donné, j'ai commencé à écrire une histoire et, comme fondamentalement, je suis pas vraiment scénariste, quoi. J'ai recontacté Gilles parce que ça fait partie des personnes avec qui j'avais envie de travailler, quoi. Lui, il pensait que c'était pour du sel sous les paupières. Hein, tu me l'avais envoyé à ce moment-là. Effectivement, c'est bien tombé parce qu'on avait tous les deux une envie commune de faire faire quelque chose de plus grand public et d'être de plus en plus un petit peu plus enfantin, quoi, enfin plus proche de l'adolescence en tout cas, et tourner moi en tout cas moi pas pour l'instant un petit peu tourner un petit peu le dos à ce que j'avais fait précédemment, quoi. J'avais envie de changer, quoi. Donc voilà, j'avais commencé à écrire un scénario pour Bordélique, quoi, et Gilles, y a porté sa patte, quoi, et puis il a remis un peu d'ordre dans tout ça. C'est intellectuellement un peu plus construit, quoi, que c'était. Donc voilà, je dirais la genèse de Wicca.
Et donc finalement, c'est quand même quelque chose d'assez âpre. C'est un univers assez dur. Vous parliez du fait que c'était quelque chose d'un peu plus adolescent finalement au final, mais c'est un univers toutefois assez dur. Hein. Les personnages. Enfin, dès le départ, on a des personnages qui meurent. Enfin,
Oui, moi j'aime bien la cruauté des contes. Hein. Donc, quand on lit les contes de Grimm, c'est pas sympa du tout. De toute façon, c'est pour dire aux enfants, regardez tout ce qui peut vous arriver de catastrophique, vous en sortirez quand même. Si vous allez rechercher des ressources en vous, mais toutes les images dont on se sert pour faire passer ce message sont vraiment, vraiment dures, quoi. Entre les parents qui dévorent leurs enfants, toutes les mises à mort qu'il y a dans les contes de fées, c'est souvent c'est assez gore, quoi. Pas de problème. Puis ça vient d'époque où c'était peut-être assez courant de voir il y avait beaucoup de guerres, beaucoup d'épidémies, etc. Au début, le petit chaperon rouge, c'était fait attention. C'était pas que symbolique et psychanalytique, quoi. C'était faire attention au loup, quoi, quand même. Voilà. Moi, j'aime bien cet état d'esprit dans les contes de Grimm. Et je voulais que ce soit présent dans Wicca, quoi.
Non, Wicca, c'est quand même l'histoire globalement d'un bébé qui va devenir un enfant, qui va devenir une adolescente, et on s'arrête à peu près à la fin de l'adolescence dans le tome 1. Donc c'est coming of age, comme disent les Anglais, hein, c'est un roman d'initiation. Alors moi, là avec Olivier, on était complètement sur la même longueur d'onde sur la cruauté du conte, revenir à quelque chose qui soit de l'anti-Disney. Disney, c'est ripolliné, horrible, atroce, avec des chansons d'Elton John. Moi, je voulais plutôt un truc avec des chansons de Metallica, quitte à choisir. Et puis, il y avait une deuxième chose qui, moi, me tenait à cœur. C'est que quand je lis une BD, aujourd'hui, très souvent, je pense surtout aux BD de fantasy, il y a une volonté, alors ça a peut-être changé à cause de séries comme Le Trône de Fer, mais il y a une volonté de préserver les personnages. On sait que les personnages, on est attaché à tel personnage, on va le retrouver dans le prochain album, et puis vous le retrouvez dans l'album d'après, et puis comme il y a 35 albums, on le retrouve jusqu'au bout. Wicca, c'est pas eu tout ce que moi j'imaginais. J'imaginais un monde où un des personnages principaux peut dégager et ne pas revenir. Ou revenir, parce que c'est un monde quand même où il y a de la magie et où la sphère des vivants, la sphère des mortes ne sont pas totalement éloignées l'une de l'autre. Et je voulais ça, et je voulais que... Alors, j'ai pas spoilé l'album, mais... je voulais vraiment qu'il y ait un personnage attachant qui dégage à la fin. Alors c'est pas pour faire le trône de fer, c'est pas ça, mais c'est pour installer cette espèce de climat que Wicca, c'est certes un monde féerique, etc. Mais c'est pas un monde confortable, c'est un monde cruel et c'est un monde sur la folie. Et alors tel que je m'ai fait l'idée de la série complète, donc les 4 tomes, c'est aussi une œuvre qui se veut un peu syncrétique, qui va parler de l'amour, de la mort, de la folie, de la passion, du renoncement, des choix difficiles, de la trahison. J'aime un peu l'idée de ces grandes fraises comme Il était une fois en Amérique, où tous les sentiments humains, à un moment ou à un autre, sont abordés, où la sexualité a son importance, c'était très important dans ce film de Sergio Leone. J'aime bien cette idée-là. Et quand on a une héroïne adolescente, c'est vrai que je me voyais pas du tout écrire un scénario de BD avec une adolescente, et que le côté sexuel, l'apparition des premiers désirs, etc., n'apparaissent pas. Moi, ça fait partie de la vie. Il fallait pour moi que, comme la mort, donc le Thanatos, apparaisse dans la BD, il fallait que l'Eros aussi soit présent dans la BD.
Donc justement, parlant d'Eros et de Thanatos... Moi, j'ai trouvé à la lecture finalement qu'il y avait un côté très tragédie grecque un peu dans l'histoire. Il y a un souffle autour, mm-hmm. Il y a un côté un peu théâtral.
Les dialogues sont un peu grandiloquents. On ne pourrait pas se permettre ça en période contemporaine ou autre. Des tournures de phrases, etc. Ouais, ça c'est vrai.
C'est un peu shakespearien. Moi, j'avais trouvé plus que plus que grec, mais. Mais après, Olivier, il a un dessin baroque, il a un dessin qui est très... Alors, on lui a beaucoup reproché, mais moi, je trouve que c'est ça qui est formidable. Avec beaucoup de détails, très chargé, avec plein de choses, avec plein de clins d'œil dans le dessin lui-même, des références, etc., etc. Il y a une planche de l'eau droit, il y a tout un jeu en dehors de ce que la planche raconte. Mmh. Et forcément... si on met des dialogues de cité et de banlieue à côté, je voyais pas du tout le délire. Donc, c'est vrai que régulièrement, d'abord, on s'est demandé régulièrement comment Wicca pouvait parler parce qu'elle a grandi dans Avalon, d'abord elle a grandi dans une ferme, puis dans Avalon avec un voleur, etc., etc. Donc, elle a forcément un parler qui n'est pas un parler grandiloquent ou aristocratique et tout. Et puis après, on s'est demandé, à contrario, comment Oberon. Espèce de cinglé absolu, fou, amoureux de Titania, pouvait parler, et forcément c'était un truc shakespearien, et quand il a soif, c'est Braise qui me dévore le cœur, j'ai besoin d'un verre d'eau, enfin c'est pas juste j'ai soif quoi. Donc c'est un jeu, moi je trouve que ça fonctionne bien, ce jeu entre le côté baroque de l'image, les circonvolutions à la Mucha, etc., et puis le côté baroque de certains dialogues et certaines circonvolutions de dialogues pour dire des choses aussi idiotes que j'ai envie de te tuer, quoi.
Donc, notamment, c'est vrai que le dessin est vraiment très détaillé, enfin, on a des véritables tableaux à chaque fois, ça fourmille de détails, et au niveau du travail sur le texte, vous venez de le dire, finalement, il y a une... Est-ce que le dessin a effectivement influé le texte, ou inversement aussi? Est-ce qu'il y a une double influence qui s'est...
Alors d'abord, on discute beaucoup, donc on parle beaucoup de ce qu'on veut, où on veut aller, comment on veut y aller, etc., etc. Donc déjà, ça a une influence sur et le dessin et le texte, tout simplement. Après, dans notre méthode de travail, et c'est pas tout le temps le cas, c'est pas pour chaque scène, etc., mais globalement, Olivier crayonne beaucoup avant que je commence à écrire les textes, les dialogues, les voix off, etc. Donc forcément, il y a l'ambiance, elle est posée par les crayonnés d'Olivier, et je m'y colle, j'essaye, mais la scène des Amadriades, si je me souviens bien, j'avais fait le texte avant que tu commences à crayonner.
Oui, voilà. Oui.
Donc c'est pas gravé dans le marbre. mais c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de discussions, et on s'est aperçu qu'il y avait des scènes qui étaient très très compliquées en termes narratifs. On a une scène là sur le tome 2, ça fait on a bossé 2 mois dessus, enfin bon, ouais, qui doit faire 8 pages ou.
Oui, qui est pas une scène énorme, mais on avait beaucoup de choses à placer. Et bon, il y a un ton qui est pas que shakespearien dans Wicca, il y a un ton que moi j'aime bien, un petit peu funky, quoi. J'aime bien retrouver l'esprit un peu rigolo des ados des chroniques. Et des fois, il y a des séquences qui sont quand même assez compliquées, mais qui doivent rester légères et agréables et amusantes à lire. Quoi. Et donc, c'est vrai qu'il y a des choses importantes à dire, mais en même temps, il faut réussir à placer quelques petits gags idiots, rigolos, qui font que ça va bien passer. Quoi. Et cette gymnastique-là, ouais, ça nous a pris 2 mois sur une scène qui, au départ, n'était pas pareil, c'est pas plus compliqué.
Très sincèrement, c'est celle qui me semblait le plus simple.
Ouais.
C'est celle qui, au départ, sur le papier, oui, bon, d'accord, ça ne devrait pas être compliqué, ça. Ben non. Après, c'est vrai que le découpage d'Olivier, qui est très particulier, même s'il est plus simple sur Wicca que sur d'autres BD qu'il a pu faire avant, c'est un découpage, comme on veut que ce soit très fluide, on a quand même eu cette réflexion dès le départ, que ça devait être moins sanglant, moins violent et plus fluide. Ça oblige au niveau des textes à vraiment faire attention, comment sont placées les bulles, et que ça se lise bien, qu'on suive bien le... qu'on suit bien la narration. Il y a moins de pages puzzle, il y en a même quasiment pas, contrairement à Requiem, où il y a des pages qui sont un peu des énigmes narratives. Quoi. Là, il y en a une qui est un peu avec des bouts de dialogue dans tous les sens.
Voilà.
Mais on n'en a qu'une. Quoi,
mais, sur, et puis, on a fait une grille, grille de pages au départ qui est moins lourde que celle de Requiem, par exemple. On arrive à un maximum de 8-9 cases par page, quoi. Avec une moyenne qui doit tourner autour des 6 à peu près. Tandis que Requiem, je me retrouvais souvent avec des 12-13 cases par page. Et ça change tout dans la narration. Quoi. Surtout si on veut continuer à faire des choses spectaculaires. Quoi. Un Lego assez compliqué. Quoi.
Et justement, par rapport au côté spectaculaire, parce que ça l'est vraiment, on en prend plein les yeux. Est-ce que le côté spectaculaire n'incite pas justement pas une influence sur le découpage, hein. Finalement, on a effectivement des planches qui paraissent assez simples, entre guillemets, mais qui fourmillent de détails. Est-ce que c'était pas difficile de trouver un équilibre entre le découpage et le fait de...
Difficile, oui, c'est difficile, mais finalement, c'est ce qui me passionne. Hein, donc, tout cet aspect découpage, et puis placer les images pour qu'elle donne le maximum de ce qu'elle a de leur potentiel, quoi. Donc, tout en ayant un style général pour l'œuvre, quoi. Là, effectivement, c'est compliqué, mais bon, c'est pour ça que je fais ce boulot, quoi. J'aime bien.
Et au niveau du texte, justement, la façon de placer les textes, le fait de... Finalement, c'est vrai qu'hormis... je crois qu'il y a une page où il y a un jeu un peu...
Oui, c'est la page avec les faits noirs, oui.
Et donc, hormis cette page-là, finalement, on a un découpage, un placement des bulles qui est assez sage. Est-ce que ça pourra changer? Puisque finalement, on est un monde de magie, c'est les faits, il y a du changement toujours un peu. Et alors, ça va se retrouver.
Déjà, les systèmes narratifs sont pas toujours les mêmes d'une scène à l'autre, parce que tout simplement pour pas s'ennuyer, pour trouver des choses un peu différentes. La scène avec les Amadriades, où on a une fée qui va mourir, qui raconte tout ce qui va se passer, donc dont on suppose qu'elle voit l'avenir. C'est un procédé narratif qu'on trouve pas ailleurs dans l'album. La scène avec les lynx, où à un moment les lynx discutent entre eux, mais on les voit pas, et on voit ce qui se passe au moment où ils discutent, qui est en parallèle et tout. C'est un autre procédé. On a essayé de trouver des scènes assez amples, de 6, 8, 10 pages, et d'adapter un processus narratif à chacune de ces scènes. Mais, par contre, je pense qu'on va rester sur le même type de procédé, tout simplement pour la lisibilité du texte. Il n'y a pas, sur le tome 2, il n'y a pas une scène qui est en narration extrêmement compliquée ou extrêmement décalée comparée au reste. Il y a des scènes qui sont compliquées, mais elles sont compliquées quand on les conçoit, mais à les lire après, elles sont simples. C'est un peu le but du jeu, c'est que... C'est, au départ, ce Wicca, c'est un projet que Olivier voulait faire pour sa fille de 12 ans. Et donc, on est quand même régulièrement dans une réflexion. C'est, est-ce que ça plairait à ta fille? Est-ce que ta fille peut lire ça? Est-ce qu'on va pas un peu trop loin là pour ta fille? Etc, etc. Et voilà, mon fils a 9 ans et je lui ai interdit de le lire, mais évidemment, le premier truc qu'il a fait, c'est de la faucher pour la lire. Et il a adoré, il y a tel point qu'il me demande la suite tout le temps. Et voilà, moi, quand on touche le public qu'on avait voulu toucher, on est content d'avoir suscité l'enthousiasme. Et c'est du vrai merveilleux et c'est pas du Walt Disney. Et moi j'ai horreur Walt Disney et moi je veux du merveilleux, je veux du Miyazaki, je veux du vrai Peter Pan, je veux des vraies choses comme ça, et je veux pas du sous-produit, quoi, ou du truc lissé. Donc alors, ça, pour moi, Wicca, c'est réussi.
Je pense que ce sera peut-être... Est-ce que Olivier veut rajouter quelque chose par rapport à ça ? Le fait que c'est justement pas du... On n'a pas du Disney, on a un vrai conte merveilleux, et...
Bah, de toute façon, tous les deux, on a toujours fait des choses assez personnelles, quoi. Et bon, moi même si je voulais faire du Disney, je suis pas sûr que j'y arriverais, quoi. Je suis habitué à faire des choses à ma manière et à raconter les choses à ma manière. Et bon, bah là, c'est, je raconte une histoire pour enfants à ma manière, Gilles aussi, quoi. Donc forcément, on a cette, je sais pas, c'est une forme de droiture, quoi, d'intellectuel qui fait qu'on va pas. On va pas aller vers du tout venant qui a déjà été mâchouillé par je ne sais combien de marketeurs. On fait les choses aussi avec honnêteté, quoi, et puis avec sincérité, quoi. Donc, le résultat est personnel, c'est assez normal, quoi.
Vous êtes assez satisfait du résultat et au niveau des projets par rapport à ça, autour, est-ce que il y a des choses. La série est prévue pour se boucler, se terminer en
4 tomes.
4 tomes, hein, c'est ça. Mm-hmm.
Dès le départ, enfin, au départ, on était parti sur 3, mais en fait, c'est pas. Olivier a trop d'idées, c'est compliqué à gérer.
On fera pas un spin-off.
non, mais on a. C'est découpé sur 4, c'est prévu sur 4, on a les titres, on sait ce qu'on raconte dans chacun des tomes, même si on n'a pas évidemment tous les petits détails et tous les petits dialogues pour le moment. Mais oui, après c'est un monde, on s'interdit pas d'y retourner. Mais moi j'ai un vrai problème, Olivier, je pense qu'il est un peu le même. Moi en tant qu'écrivain, je déteste faire deux fois la même chose. C'est un truc qui ça me sort par les yeux, quasiment tous mes livres sont très très différents les uns des autres. Je suis pas forcément envie de faire Wicca 2. C'est-à-dire que Wicca, c'est un projet qui vraiment me plaît, m'enthousiasme. Je serais super content quand on aura fini. Je pense que je serai un peu triste. Mais pas triste au point de dire, ah, il faut absolument qu'on fasse le deuxième. Voilà, il y a d'autres choses sur lesquelles il a envie d'aller graphiquement. Et moi, en BD, il y a d'autres choses que je veux faire, très très différentes. J'ai envie de faire du roman graphique, j'ai envie de faire des choses complètement différentes de ce que peut être cette BD de fantasy cruelle, entre guillemets. Et je trouve que justement la BD c'est un tel territoire de liberté, pourquoi s'emmerder à toujours utiliser les mêmes recettes, quoi. Enfin, justement, libérons-nous et faisons des choses libres.
Très bien,
tout à fait d'accord, hein. Il n'y a pas de problème.
Merci beaucoup pour ce passionnant entretien et donc au plaisir de lire la suite.
Janvier 2016.
Très bien, merci beaucoup.
De rien, bonne journée.